Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Hello. Avec notre collaborateur Martin Geoffroy, qui est aussi directeur du CEFIR, surtout directeur du CEFIR et prof au Cégep Édouard Montpetit. Martin, salut.
Salut, salut.
On se parle de ce nouveau rapport déposé par le CEFIR sur la place de l'extrême droite au Québec.
Exactement. Depuis ce matin, j'ai fait plusieurs entrevues avec plusieurs médias, comme tu peux t'en douter. Ce nouveau rapport-là, en fait, c'est moi qui l'ai initié, mais j'ai travaillé aussi avec mon collègue, l'anthropologue Frédéric Nadeau, qui est probablement un des plus grands experts sur l'extrême droite au Québec, qui a vraiment fait du terrain avec ces gens-là, puis qui les a rencontrés, puis tout ça. J'ai eu cette idée-là parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de recherches que, à chaque fois qu'on parlait de l'extrême droite ou des groupes extrémistes ou même des complotistes, c'est toujours des études qui sont faites sur des posts en ligne.
Sur leur comportement en ligne, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Okay. Sur leur comportement en ligne, mais jamais dans. On parle très rarement des occurrences dans la réalité. Il n'y a jamais personne qui a essayé, selon des critères bien définis, de quantifier sur un certain nombre d'années, parce que c'est ça qu'on peut savoir si ça monte ou ça descend, c'est pas sur quelques mois, là. Mais c'est de quantifier des occurrences, c'est-à-dire des événements dans la vie réelle, c'est comme des manifestations, des crimes, du harcèlement. Puis on peut inclure là-dedans du harcèlement en ligne, là, si on veut, mais pas seulement ça, tu vois. Et donc, je m'étais dit avec mon camarade Frédéric qu'on devait absolument, si on voulait parler de l'extrême droite au Québec et du complotisme éventuellement, commencer par faire ce travail-là, c'est-à-dire d'évaluer, parce que souvent on dit, il y a une montée de l'extrême droite au Québec. Mais y a-t-il des chiffres pour appuyer ça? Rarement.
C'est vrai
jamais.
Que c'est très, très vague. C'est comme une formule un peu galvaudée qu'on utilise souvent dans les médias pour titrer des articles qui traitent de ces groupes-là.
Exactement. Mais vu que c'était des groupes extrêmement marginaux, moi, je me posais toute la question, est-ce qu'il y a vraiment une montée de l'extrême droite? Ouais. Fait que là, la seule manière de le savoir, c'est pas une montée de l'extrême droite en ligne, tu sais, parce qu'en ligne, ça a déjà été fait, puis oui, il y a une montée de toutes les extrêmes en ligne. Mais est-ce qu'il y a une montée de l'extrême droite au Québec, hein, pas ailleurs, là, au Québec, dans la réalité? Moi, c'est ça qui m'intéressait. Fait qu'on a commencé depuis 4 ans à littéralement faire un travail de moine avec mes collègues à compiler toutes les occurrences, à les classifier, puis c'est ça qu'on a fait dans le rapport, les types d'actions des militants d'extrême droite, et à donner aussi une définition en fait d'extrême droite, parce que tout le monde dit d'extrême droite pour extrême droite, mais il y a pas une définition qui est pareille. Et puis bon, pour dire un petit peu c'est quoi notre définition, bon, dans le rapport on définit ça sur plusieurs pages là, mais pour résumer, j'en parle souvent dans ton émission, Geneviève. À la base, les extrémistes, c'est des gens qui sont contre la démocratie libérale, contre le jeu politique.
Okay.
Qui refusent d'embarquer dans toute forme de jeu politique, qui voudraient comme putcher le gouvernement pour le remplacer par une dictature qui correspondrait à leurs idées. Puis ça, c'est prouvé parce que dans notre rapport, parce que ce qu'on remarque de l'extrême droite, des militants d'extrême droite, c'est que ce qu'on appelle des actions politiques, c'est-à-dire participer à des élections, des partis politiques, tout ça, c'est moins de 2% de leurs actions militantes. OK? Donc, à 98%, là, c'est des gens qui participent pas à la vie politique telle qu'on la connaît dans une société démocratique, libérale comme le Québec. Ils vont poser des actions plutôt violentes, des manifestations, du harcèlement, etc., etc. Et puis, ce qu'on a constaté, qui est intéressant, c'est qu'en 2019, l'extrême droite baissait un petit peu au Québec, et puis elle perdait de la vitesse. Puis là, avec la pandémie, elle s'est comme réinventée. Puis, sans dire que tous les gens qui sont dans les groupes des mesures antisanitaires sont d'extrême droite, c'est pas le cas. C'est assez varié. Puis on a un autre rapport bientôt qui va en parler. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les leaders, la plupart des leaders sont issus de groupes comme la Meute, Storm Alliance, des anciens groupes d'extrême droite qui n'existent plus maintenant. Et ils ont profité de la pandémie donc pour se recycler. Passer d'un discours, par exemple, anti-immigration à un discours anti-mesures sanitaires.
Je m'excuse c'est peut-être prématuré de te poser cette question-là, mais ce glissement-là là, dans le discours, est-ce qu'on comprend, il est dû à quoi?
que tu veux dire, le glissement qu'ils ont dans leur discours?
Ben, c'est-à-dire qu'ils étaient très obsédés par l'immigration quand tout à coup, il y a un glissement vers les mesures sanitaires.
Mon explication, moi, qu'on voit dans nos chiffres, c'est qu'ils étaient un peu en perte de vitesse en 2019.
En perte de sens, oui, OK.
Ça pognait plus leur discours. Fait que là, ils ont trouvé d'autres choses pour mobiliser. Puis, ils ont comme récupéré un peu le mouvement anti-sanitaire. Et puis là, ils sont en train de le transformer et puis de le ramener sur des questions d'immigration. Je vais te donner un exemple très concret.
Ouais.
Dans les théories complotistes, on dit que le virus aurait été inventé par des Chinois en laboratoire en Chine. Hein. Trump disait que c'est un virus chinois. Puis on a constaté à Montréal que les Chinois commencent à partir de ça à se faire ostraciser puis à se faire harceler.
Mais tous les Asiatiques, en fait.
Et tous les Asiatiques, en fait, font pas la différence. Mais donc ça vient justement des leaders d'extrême droite qui sont là-dedans, qui profitent de l'occasion pour ramener à l'avant-plan, à travers des théories du complot, des boucs émissaires ethniques. Comme par exemple, un des gros boucs émissaires de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme, c'est les Juifs. Et quand on parle, par exemple, de George Soros qui manipulerait tout le monde, tout ça, c'est toutes des affaires qui viennent de l'extrême droite. Mais c'est passé dans le discours des mesures antisanitaires, dans le discours complotiste, très subtilement. Et là, on se retrouve à être contre les mesures sanitaires, mais on blâme aussi des ethnies comme les Asiatiques, comme les Juifs. Tu vois un petit peu là comment ils ont très subtilement récupéré ça puis relancé leur affaire. Ce qui fait que dans les 10 années qu'on a observées, l'année 2020, c'est l'année où il y a eu les groupements antisanitaires, il y a eu le plus d'occurrences dans la réalité. Donc 72 occurrences, là, c'est-à-dire relié à ces groupes-là d'extrême droite.
Mais c'est-tu des manifestations, ces occurrences-là? C'est quoi?
Ben, on a, une panoplie. Il y a des manifestations, mais pas seulement ça. Il y a du harcèlement réel, du harcèlement en ligne.
Pour revenir un peu à ce que tu disais au début de la chronique, là, sur le fait qu'on observait beaucoup leurs activités en ligne, j'ai l'impression qu'avec la pandémie, ils continuent à discourir en ligne, mais bon, on peut s'en douter, là, de se regrouper en ligne, justement, ça peut servir à fomenter des actions dans le réel, mais c'est peut-être à cause, justement, de cette pandémie qu'ils sont plus actifs dans le vrai monde, entre guillemets, là.
Ben, je veux dire, oui, puis aussi, regarde, ils font des parties entre eux autres, là, puis ils font...
Ah oui, fuck le go, puis tout, là.
Ils sont très actifs, là, puis ouais. Aussi, en fait...
Mais leurs parties, vous les comptez aussi dans les occurrences de manifestations du réel?
Des parties, des concerts, des événements créés entre eux, oui, ça compte, ça. Mais c'est pas le plus gros pourcentage, là, il y en a plusieurs, là, mais je veux dire, comme par exemple, au début, en 2010, il y avait pas beaucoup d'occurrences, on est passé de 2 par année liée à l'extrême droite à 139 occurrences. Au début 2010, c'était surtout des groupes skinhead qui organisaient des concerts racistes à Montréal. Mais ça, c'est comme complètement disparu du radar. Puis c'est beaucoup plus maintenant, évidemment, des groupes antisanitaires. Puis une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a voulu mesurer le niveau de violence, de radicalisation de ces groupes-là.
Parce qu'on s'est... c'est parce qu'on s'est posé la question quand il s'est passé les trucs au Capitole aux États-Unis, si ça se pouvait chez nous. Tu sais, on se l'est largement posé la question, puis on dirait que personne s'entendait, personne n'était d'accord. Puis toi, tu disais, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, tu disais, attendez une minute, là, on n'est pas à l'abri de ça.
Ben, on n'est pas à l'abri de ça, puis ce que notre étude montre, en fait, c'est que en termes de violence reliée à l'extrême droite, c'est la 2020 est l'année la plus violente depuis 10 ans. Donc, c'est assez clair que ce qui s'est passé au Capitole maintenant avec cette étude-là pourrait se passer chez nous.
Parce que ça les a influencés, parce que ça les a galvanisés parce que c'est l'aboutissement d'une pensée de ces groupes-là?
Bien, il y a un développement qu'on a tout décrit dans le rapport, mais c'est évident que la pandémie offre une opportunité à l'extrême droite qu'elle n'aurait pas eue autrement de faire avancer son agenda. Et aussi, en fait, ce qui arrive... c'est que plus ils sont marginalisés dans la société, plus ils sont radicalisés, plus ils peuvent faire des gestes violents. Et quand je te dis que quand on regarde leur répertoire d'action, qu'il y a seulement 2% de ces gens-là qui croient à la politique, finalement, tu sais, à se joindre à un parti politique ou autre, ça veut dire que 98% des gens ne croient pas du tout au jeu politique. Et donc, quand tu ne crois pas au jeu politique, ben c'est là que, pour faire avancer, à un moment donné, tes idées, tu peux verser dans la violence ou le terrorisme, parce que t'es désespéré un peu, t'es convaincu que tu pourras pas faire avancer tes idées dans cette société-là. Mmh. Et donc, ultimement, le recours à la violence, à l'intimidation, à toutes sortes de tactiques pour faire avancer tes affaires, ben va être utilisé. Puis il est là le danger. C'est pas un fait parce qu'il y a moins d'un pour cent des individus qu'on évalue là-dedans qui sont moins d'un pour cent des personnes au Québec sont d'extrême droite comme telle.
Okay.
Et d'ailleurs, c'est pour ça quand ils ont des partis d'extrême droite comme le parti de Maxime Bernier ou le parti citoyen au pouvoir, des partis populistes, ils ont des scores désastreux aux élections. Ça montre que la population n'est pas d'extrême droite. Mmh. Mais cette petite frange-là, par contre, ce qu'on a vu en 2020, c'est qu'elle est de plus en plus violente, elle se radicalise. Et il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont anti-tout, comme on dit.
Oui, mais dis-moi, Martin, est-ce que dans ce que vous avez pu observer, est-ce que ces groupes-là attirent davantage d'hommes ou de femmes ou c'est moitié-moitié? Moi, mon biais, c'est que ça attire plus des hommes, puis plus des hommes dans une certaine tranche d'âge. Est-ce que je me trompe ou vous avez pas de chiffres là-dessus?
Tu serais surprise, Geneviève.
Mais surprends-moi!
Ça attire beaucoup des jeunes.
Ben oui, je suis pas surprise.
Les jeunes adultes. Les groupes, ça dépend, la panoplie est très grande de types d'actions et de types de groupes. Par exemple, les groupes néo-fascistes, là, vraiment comme Atalante, c'est beaucoup des jeunes dans la vingtaine. Par contre, si tu regardes des groupes comme la Meute, là, qui existe presque plus, là, ou même les Farfadets, comme on les appelle.
Les Farfadets.
Oui. Les Farfadets, ouais,
oui. J'aime ça le dire. Appelle.
Ben, ça, c'est des gens dans la cinquantaine, souvent ex-souverainistes désabusés, qui veulent passer à l'action, etc.
Ils sont exaltés, un nationalisme exalté, exacerbé.
Oui, on pourrait dire ça. En fait, c'est un nationalisme identitaire,
exactement.
Là, vraiment. Là.
Ouais.
Un nationalisme même, je dirais, en fait, un nationalisme ethnique par rapport à un nationalisme civique, tu vois, qui pour moi est un nationalisme acceptable. Un nationalisme civique, c'est acceptable. Un nationalisme ethnique, là, basé sur la race,
c'est
pas acceptable. Moi, je débarque là dans une société démocratique, là, ça devrait pas avoir lieu d'être. Mais bon, en fait, c'est ça. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que des individus, justement, voyant que leur option politique d'extrême droite ne peut pas avancer, puissent avoir recours éventuellement à la violence. Et bon, comme tu disais, comme on l'a vu au Capitole aux États-Unis, ce que le rapport nous montre, donc, c'est qu'ils ont tendance à se radicaliser et à rejeter l'ensemble des institutions sociales. Et donc, il y a un danger qu'il faut surveiller. Il faut les surveiller, premièrement.
C'est
puis
ça.
Ensuite, il faut...
Ben, vas-y,
oui,
poursuis.
Oui.
Ben, c'est juste que tu dis danger, Martin. L'étude a été financée par Sécurité publique Canada. Il faut les surveiller. J'ai l'impression que les corps de police, peut-être pendant quelques années, ont pris ça à la légère. Là, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle préoccupation?
Il y a une réelle préoccupation. Puis le fait qu'on soit financé par des ministères de la Sécurité publique et du Canada et du Québec montre que les deux paliers de gouvernement ont une préoccupation par rapport à ça. On travaille, nous, Sophie, aussi avec les corps policiers pour faire de l'éducation populaire, tout ça. On travaille beaucoup ici à Longueuil avec le fameux SPAL que nous, on aime beaucoup, le service de police de l'agglomération de Longueuil, qui est très, très avancé par rapport à...
Dans bien des dossiers à Longueuil. Ils ont un chef de police formidable.
Chef de police formidable, Fadi Daguerre. Donc, on travaille avec eux là-dessus. C'est vraiment intéressant de faire avancer ces dossiers-là. Donc, oui, ça n'a pas été pris au sérieux jusqu'à maintenant, mais la pandémie aura eu ça de bon qu'on prend maintenant ces choses-là plus au sérieux parce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie, par exemple, que les théories du complot, ça peut provoquer la mort, là, quand même.
Ah oui, puis on a eu Bernard Lachance, qui est décédé.
Oui.
Un
bon exemple.
J'ai envie de dire qu'il est décédé de désinformation, là, Martin. Faut qu'on se laisse parce qu'on n'a plus de temps, mais c'est vraiment très intéressant que ce rapport du CFIR, puis tu nous disais qu'il allait en avoir un nouveau sur... Tu me disais ça tantôt.
Au mois de juin, on va sortir un rapport sur le conspirationnisme en tant que tel avec une classification beaucoup plus fine.
Bon. Sortez-le avant le 19 juin, s'il vous plaît, qu'on puisse en parler avant la fin de la saison. Martin Geoffroy, merci.
Oui. Salut, bye-bye.